RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Content de vous retrouver pour de la discussion, du débat, vous en avez l'habitude. C'est au 32-16 que ça se passe, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui le cuisinier Yves Candebord est des nôtres aujourd'hui. Bonjour Yves.
Bonjour tout le monde.
Nous sommes avec Laura Varton-Martinez, la sophrologue. Bonjour Laura.
Bonjour tout le monde.
Et puis Barbara Lefebvre, la professeure d'histoire-géographie, nous accompagne aujourd'hui aussi. Bonjour ma chère Barbara.
Bonjour les amis.
Est-ce qu'on peut encore imiter des accents aujourd'hui? C'est le gérant d'un Leclerc qui a sorti une publicité, une vidéo pour mettre en avant les produits pour le nouvel an chinois. Il avait mis une tenue chinoise, il a imité l'accent, il a dû présenter ses excuses parce qu'il est accusé de racisme. On en parlera tout à l'heure à 11h. Epstein, un diplomate français, est cité. Est-ce que le Quai d'Orsay a essayé d'étouffer l'affaire? On l'évoquera tout à l'heure à 10h avec vous. D'abord, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le sud-ouest avec ces départements qui sont en alerte rouge. L'Aude en rouge, on a jusqu'à 160 km/h de vent en rafale. Des dégâts, beaucoup de dégâts, plus de 800 000 foyers privés d'électricité. On a un mort, on va en parler, vous allez réagir avec nous au 32-16 parce que c'est tempête à répétition. Est-ce que ça doit nous faire réagir, repenser nos régions, nos infrastructures? Est-ce que ça nous fait peur? 32-16 pour en discuter avec les GG.
Ça peur,
Yves? Non.
T'as peur, Yves? Non, pensez, là. Il a affronté les intempéries, Yves Candebord, debout, tout seul, dans le sud-ouest.
L'Aude, c'est dans le sud-ouest?
Non. Ah, quand on regarde la carte, quand même, hein, c'est. Non. Si tu divises, divises en quatre, comme ça, l'Aude,
là, il ne connaît pas sa géographie.
S'arrête à Tarbes.
Tu sais, pour un Niçois, tout est dans le sud-ouest.
Tout est à l'ouest.
Et à l'ouest et au nord.
Non, en fait, on plaisante, mais c'est une tempête qui a fait des dégâts matériels, mais pas seulement, puisqu'il y a eu un mort cette nuit. C'est un chauffeur poids lourd qui est décédé. Une branche-arme est tombée sur lui. Il y a aussi un blessé, gravement blessé. C'est ce que Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a annoncé en intervention à Cassel-Sarrazin à la suite d'une chute d'arbre également sur le véhicule. Donc tout le monde est mobilisé, les pompiers, les services de l'État. Il y a 850 000 foyers privés d'électricité. Elle a balayé le sud-ouest, cette tempête Nils, avec des vents très forts. D'ailleurs, Météo France a dit c'est une tempête d'une force peu fréquente. Il y a eu des vents jusqu'à 162 km/h. Et malheureusement, ce n'est pas la première tempête hivernale. On va de tempête en tempête. Et lorsque vous interrogez les spécialistes, ils nous expliquent qu'avec le dérèglement climatique, il y aura de plus en plus de tempêtes, de plus en plus de pluie l'hiver. Et il fera plus chaud et plus sec l'été. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Faut-il s'y habituer, être résilient? Faut-il s'adapter? Par exemple, enterrer peut-être davantage les poteaux électriques pour éviter ces coupures? Peut-être un peu plus écouter les messages de prévention parce que on a encore des gens qui prennent la route alors qu'on leur déconseille de prendre la route. Bref, est-ce qu'il faut être peut-être plus vigilant?
Yves, ça, quand est-ce que tu en penses ces tempêtes dans le sud-ouest? Parce qu'elles sont à répétition maintenant. Hein.
Oui, elles sont à répétition. Moi, c'est le dérèglement climatique. C'est vrai que c'est de plus en plus inquiétant. Mais après, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est vrai qu'il faudrait peut-être essayer de réfléchir par rapport à l'électricité, d'enterrer tous les poteaux, que tout le réseau électrique soit sous terre. Ça protégerait. Mais malheureusement, après, la nature, c'est la nature. Hein. Quand Dame Nature a décidé de se mettre en colère, elle se met en colère. On subit.
On peut quand même faire des choses. C'est par exemple nettoyer davantage les cours d'eau, peut-être arrêter de construire dans des zones inondables, même si on fait ça, ça va être compliqué.
C'est compliqué parce que, quand on parle de l'Aude et on parle par exemple des PO, des Pyrénées-Orientales, ils ont pris 600 millimètres d'eau en deux mois. En général, c'est ce qu'ils prennent en deux ans. Et les PO, ça faisait deux ans qu'ils n'avaient pas eu d'eau.
Les PO, c'est les Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales, oui. Donc c'est très compliqué.
Oui, de deux ans de sécheresse.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive sur des zones qui sont tellement sèches. Ils sont plus capables d'absorber l'eau et obligatoirement derrière.
Les compagnies d'assurance Meilleur Taux qui a sorti une étude, c'est le sud-ouest global et la façade méditerranéenne où les primes d'habitation augmentent le plus chaque année. De 8 à 12% à cause des tempêtes à répétition.
C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est pas la tempête en elle-même qui me fait peur. C'est la pénalité que vont avoir ces gens. Alors qu'encore une fois, il devrait y avoir des obligations maintenant constructeurs dans ces zones-là pour que les habitations soient sécurisées. Je pense pas que ce soit hyper compliqué de, au moins, quand on sait qu'arrive l'hiver, de lester tous les poteaux électriques, de nettoyer les cours d'eau. Il y a plein de choses qui peuvent être faites en amont, mais encore une fois, je suis désolée, c'est une défaillance. Alors là, pour le coup, peut-être pas de l'État, mais des régions. On doit se préparer à ce genre de choses. Maintenant, on sait que ça arrive.
Il y a eu des messages de prévention.
Oui, mais les messages de prévention, d'accord. Mais qu'est-ce que tu le disais tout à l'heure, nettoyer les cours d'eau, c'est tout bête. Oui. Tu peux nettoyer les cours d'eau, tu peux préparer des choses.
C'est bien de parler de nettoyer les cours d'eau. L'écobuage qu'on faisait dans les cours d'eau, historiquement, l'hiver, on arrive à faire brûler le lit des cours d'eau pour les nettoyer. C'est interdit maintenant avec l'écologie.
Mais c'est exactement.
On a un non-sens à un moment donné.
J'allais y venir.
Entre l'écologie, c'est vrai qu'il faut préserver des espèces, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi le bon sens paysan qu'il faut entretenir et il faut accepter des contresens écologiques, mais qui vont permettre.
Tu lis dans mes pensées.
Sachant qu'on a beaucoup construit dans des zones aussi où on n'aurait pas dû. On a délivré des permis de construire pour faire des zones commerciales, des zones d'habitation qui étaient aussi avant des zones d'évacuation naturelle. Barbara.
Bah oui, la question de l'artificialisation des sols, elle est pas à mettre de côté. Et par ailleurs, les zones qui sont les plus touchées ici, c'est les villages et les petites villes, les zones périurbaines même, je dirais. C'est pas les grandes villes ou les villes moyennes qui n'ont plus de qui sont privées d'électricité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un pays qui est urbanisé à 70%, honnêtement, je crois que les pouvoirs publics en ont strictement rien à faire de ce qui peut se passer dans la ruralité et dans les espaces périurbains. Tant que ça vient pas priver d'électricité la ville où siège le conseil général, le conseil régional et toute la.
Donc le quartier des ministères n'est pas privé d'électricité.
Bah voilà, c'est le jour où la populace ou la tempête
après,
arrive
coup,
dans les centres-villes.
De l'électricité, que
là, on s'inquiète.
À réparer, ça a un coût.
Voilà,
ça.
Non mais tant que c'est le rural et le périurbain qui n'a pas les moyens de se loger en centre-ville, qui va habiter dans les lotissements d'ailleurs bien souvent construits. Pas toujours, mais enfin, quoi, certaines fois, les mochetés des lotissements dans les zones inondables, ben voilà, c'est pas grave, on n'en a rien à faire. Après, il y a bien entendu la question du dérèglement climatique, mais je crois que ça a été dit précédemment. Ça se télescope, c'est-à-dire des faiblesses dans l'aménagement du territoire. Aucune réflexion dans comment on développe le tissu urbain, on laisse la métropolisation continuer de gonfler et donc les populations reléguées, bah écoutez, ils se prennent la tempête, ils se prennent les inondations, ça va passer, vous inquiétez pas, privé d'électricité, encore une fois, tant que ça n'arrive pas aux urbains, on s'en fout.
Tout ça a un coût économique. Par exemple, les trains sont perturbés, donc il y a des gens qui n'iront pas bosser aujourd'hui. Il y a des chiffres d'affaires qui ne vont pas se faire. Il y a effectivement la mobilisation des services pour rétablir l'électricité. Tout ça a un coût. C'est-à-dire, on peut pas simplement dire c'est la fatalité. Ça se chiffre. C'est de l'argent dépensé.
Oui, mais
surtout si on nous dit qu'elles vont revenir régulièrement
et du côté des assurances.
Oui, mais tu regardes. Je veux dire, le conseil est très rapidement fait. Là où elle a raison, Barbara. Tu regardes sur une ville moyenne. Tu vois les poteaux électriques, ils sont beaux. Ils sont en fer, ils sont bien droits, ils sont bien tenus. Tu vas dans le village d'à côté, dans les villages où moi j'ai grandi, tu vois, t'as l'impression que c'est le tronc d'arbre qui a été arraché, qui a été posé. Le truc, tu souffles dessus, il tombe. Après, faut pas s'étonner qu'il y ait des accidents. Tu regardes, ne serait-ce que le nettoyage des bords de route où t'as des arbres à moitié canés qui sont à deux doigts de tomber dès qu'il y a un coup de vent. Les gens ne sont pas traités à la même enseigne. Et là.
Et c'est la responsabilité des élus locaux.
Et c'est pour ça que je disais que là, c'est pas l'État, je dirais plus que c'est la région, voire les mairies, qui doivent prendre le truc à bras le corps.
Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires dans les collectivités territoriales pour s'occuper de ça, bien entendu. C'est vraiment pas l'endroit où il y a le plus de fonctionnaires.
Ils n'ont pas plusieurs pour la même chose.
On a un coup de fil qui vient de Pessac, justement. C'est en Gironde. Oui. Bonjour, Guillaume.
Bonjour Laura. Mais bien sûr qu'il y a du vin, Laura. On avait parlé au forum.
Il y a de l'eau en ce moment et du vin.
Alors, est-ce que ça continue de
taper, oui. Guillaume, ou c'est fini là?
Non, ça continue. Cette nuit, ça a été assez impressionnant au niveau son. Alors nous, on a de la chance, on est quand même. Vous en parliez de l'urbanisation, etc. On est à Pessac, donc c'est quand même. On est quand même relativement protégé par les uns et les autres, en fait, les constructions.
Oui.
Donc ça va, mais c'était quand même très impressionnant ce matin. Enfin, à 4h du matin, je suis allé remettre la bâche que j'ai sur la voiture et c'était un peu compliqué parce qu'il y avait, c'était un peu détaché et toutes les poubelles de la rue étaient par terre, toutes. Alors ça c'est pas très grave, hein, vous allez me dire. Mais ça veut dire que ça a été violent ici, donc j'imagine là où ils sont pas protégés.
Ah ben, en Corse, c'était 157 km/h et c'est encore en alerte rouge là, ouais, aujourd'hui encore.
J'ai cru voir du 160 hein, par chez nous.
Oui, c'est ça. Ouais.
Ouais. C'était jusqu'à 160. Donc,
mais à votre avis, que faut-il faire maintenant, Guillaume, alors? Est-ce qu'il faut revoir certaines infrastructures? Est-ce qu'il faut revoir des plans urbains, d'aménagement urbain? Dites-moi.
Mais déjà, les plans d'aménagement urbain, faut les revoir et pas que pour la tempête. Hein. Ça serait pour enterrer les fils électriques, déjà pour que ce soit plus joli et plus efficace. Après, moi, des tempêtes, entre guillemets, dans la région... Je trouve pas que j'ai 50 ans, j'ai pas l'impression qu'il y en ait plus qu'avant. Elles sont plus violentes,
elles sont plus fortes,
peut-être, mais
plus
moi, quand j'étais petit dans l'entre-deux-mers, j'ai vu une tornade. Hein. Donc quand j'étais petit, il y a une quarantaine d'années. Donc si vous voulez ça, je sais pas. Mais la violence est là. Et en tous les cas, là, j'avais un repas. Alors, je suis en télétravail aujourd'hui, mais j'avais un repas prévu à midi. Et la personne nous a envoyé des vidéos et des photos de la route. Là, en revanche, côté Marmande, c'était assez apocalyptique. Hein.
Ah oui. Mais tu regardes, c'est les conséquences qui sont de plus en plus graves. Et on en revient toujours aux mêmes choses. Sous prétexte parfois d'écologie, on a arrêté des choses qui fonctionnaient très bien. On a construit
L'écologie, elle t'alerte aussi du dérèglement climatique.
Mais là, on parlait par exemple du nettoyage des rivières. On ne le fait plus, donc ça crée des conséquences chaotiques.
Allez-y, Guillaume, vous disiez.
Mais t'as raison, Laura, c'est le paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on veut laver plus blanc que blanc sans réfléchir. C'est-à-dire qu'on va avoir les vilains agriculteurs qui raclent les cours d'eau, qui font n'importe quoi d'après les gentils écologistes. Et on n'a pas de pragmatisme, en fait. On pourrait quand même allier écologie, environnement, du coup. Moi, je préfère dire environnement qu'écologie, mais on pourrait allier environnement et technique ancienne pour justement préserver tout ça. Parce qu'il n'y a pas que l'environnement qu'il faut préserver. Il faut préserver aussi nos façons de vivre. Et notre
Vous voyez, on va prendre un exemple, Guillaume. À la fin des années 70, à Nice, au moment de la construction de l'extension de l'aéroport, il y a eu un mini-séisme qui a fait malheureusement beaucoup de morts avec un petit tsunami. Suite à ce mini-séisme, on a regardé les études et on s'est aperçu que toute la région et toute la côte étaient sur une faille.
Ah ouais.
Qu'est-ce qu'on a fait derrière? On a demandé à ce que les nouvelles constructions soient notamment sur les normes antisismiques. Bon, peut-être que ce tremblement de terre arrivera forcément un jour, mais et donc aujourd'hui, on a fait beaucoup de normes sur antisismiques dans les matériaux de construction. Dans les régions qui sont maintenant connues, ciblées pour les inondations à répétition, dans le nord de la France ou dans le sud-ouest, qu'est-ce qu'on a changé au niveau des normes, tu vois, ou des nouvelles constructions ou des zones d'évacuation? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que finalement, quand tu regardes le nord, et tu peux d'ores et déjà mettre un billet qu'à la Toussaint prochain, les mêmes régions, les mêmes villages, les mêmes habitants connaîtront les inondations. C'est ça, de se dire, tu vois, qu'est-ce qu'on fait en amont suite à ces événements à répétition pour que ça change, pour préserver les gens?
La seule chose qui a changé, c'est que sur ton contrat d'assurance, il y a marqué que si t'as acheté en zone inondable avec un risque...
C'est pas de la prévention.
Sauf que c'est la seule chose qui a été faite. Des maisons sont détruites, on les reconstruit exactement de la même manière qu'elles ont été faites de base, en sachant que la plupart du temps, les assurances ne couvrent pas les victimes. On n'a pas changé les matériaux, on s'est pas mis à enterrer les fils électriques, on s'est pas mis à faire des fondations plus profondes pour éviter certaines choses, on n'a pas créé des maisons, c'est con, surélevé. Enfin, je sais pas.
Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu as raison, il y a des endroits où il faut mettre un petit peu plus d'évacuation.
L'une des leçons tirées de la tempête Xynthia, en disant qu'il faut des maisons à deux étages, parce que tu vas te réfugier au deuxième étage.
Tu parles de Nice, grande ville, grande population, donc ça intéresse les gens. L'Aude, personne n'est intéressé par l'Aude. Ils sont complètement délaissés. Les feux qu'ils ont eu.
La même population.
Les feux qu'ils ont eu dernièrement. C'était une catastrophe. Mais pourquoi ils ont eu des feux? Parce que rien n'est entretenu. Les chemins ne sont pas entretenus. On délaisse complètement nos campagnes. On a une politique aujourd'hui.
Je rassure pas que les campagnes. Ouais, on va avoir certaines forêts d'Île-de-France.
On a une politique de Parisiens.
Oui, complètement.
Tout est géré par les Parisiens. Et ils ne voient que Paris. Ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Regardez les ours.
Il y a des élus locaux.
Regardez les ours chez nous, les ours dans les Pyrénées. C'est géré par les écolos de Paris. Qui y aille là-haut? Qui c'est qui va remplacer les bergers? Qui c'est qui nettoie les montagnes?
On en reparlera sur l'ours. Mais bon.
C'est une catastrophe. Aujourd'hui, de toute façon, la France, elle est gérée par un microcosme parisien. Et les campagnes sont totalement délaissées. On les abandonne.
On ne part pas sur les ours.
Je
remercie Guillaume d'avoir été avec nous. Merci, Guillaume.
Merci, Alex.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Bonjour.
Allô? Oui. Bonjour à monsieur Gerbier, que j'écoute et que j'aime bien.
Ah, Louis Gerbier, bien sûr, c'est notre coproducteur. Alors, Louis Gerbier, vous l'écoutez dans le quiz le soir chez Jérôme Rotten.
Bien sûr.
Et surtout, vous écoutez son podcast sur la Formule 1, Paddock, l'un des podcasts des sports mécaniques les plus connus, qui a beaucoup de succès. Laurent, bonjour.
Oui, bonjour.
Saint-Vivien de Médoc.
Bonjour, Laurent.
En Gironde. Où est-ce que ça en est chez vous, alors, dites-moi?
Oh, ben, moi, j'entends les gens qui flippent pour rien. Il y a eu un peu de vent, c'est vrai, mais il faut pas déconner, quoi. Il y a trois poubelles par terre, ça y est. Ah, il y a des poubelles partout! Bah oui, c'est des poubelles en plastique, elles sont dehors.
Il y a
bah,
un peu
moi,
plus
j'habite
ça,
tout
même.
En haut de la pointe.
Oui.
Donc, quand vous regardez la France, la petite bouche, moi, j'habite tout en haut de la pointe et au milieu des marais. Donc, du vent, il y en a eu. Bah, j'ai bien dormi, quoi. Mes poubelles, oui, elles étaient par terre ce matin, mais bon, c'est bon, quoi.
Après, donc, on a arrêtons d'en faire trop, c'est ce que vous dites?
Mais ouais, mais c'est pareil. Enfin, il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau. C'est vrai.
Il y a quand même 850 000 foyers qui n'ont pas d'électricité ce matin.
Ouais, mais ça, c'est normal puisque les traînées sont entretenues. Donc, ça tombe, mais c'est pas dramatique non plus. Genre, dans la journée, on va récupérer l'électricité. Enfin, 99, ça a duré plus d'une semaine, l'électricité dans le Médoc en moins. Bah, ça, écoute, il faut relativiser à un moment donné. Oui, c'est 850 000 personnes. Mais d'ici ce soir, je prends le pari là maintenant, d'ici ce soir...
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'électricité. Dans notre jeunesse, les coupures, il y en avait tout le temps des coupures.
C'était les délestages, Olivier, on appelait ça.
Et on avait les bougies à la maison. Et quand t'étais môme, t'adorais ça, parce qu'on dînait le soir à la bougie.
On appelait ça les délestages, parce que ça permettait de soulager un peu le réseau électrique.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on est habitué à un confort, et dès que ce confort est menacé, c'est compliqué.
Il y a un point qu'a soulevé quand même Yves que je trouve intéressant. Le fait qu'il n'y ait pas d'entretien, notamment des espaces forestiers. Et là, je dis même en région parisienne, d'accord, il y a des forêts domaniales, il n'y a pas d'entretien. D'accord, je me balade beaucoup en forêt.
On va te dire manque de personnel.
Non, mais ce manque d'entretien, vous avez une intempérie, deux intempéries, à chaque fois, il y a des dégâts. Mais comme on les nettoie pas, on ne met pas de l'ordre, les problématiques, notamment dans les espaces forestiers, ne font que s'accumuler. Et moi, je le vois bien. Depuis plusieurs années, il y a des espaces forestiers autour de chez moi, autour de Versailles, mais même plus loin que Versailles, qui ne sont visiblement pas entretenus. Et ça ne fait que s'aggraver. Et aujourd'hui, au moindre coup de vent, tu te prends une branche sur la tronche.
C'est vrai.
Alors qu'avant, avant que la branche elle tombe, comme à chaque fois c'était relativement entretenu, nos forêts sont plus des forêts primaires, ce sont que des forêts artificielles.
Après Barbara, il y a une réglementation. Moi qui habite dans une forêt, il y a une réglementation pour les particuliers quand on a une maison.
Ouais.
On doit entretenir à 50 mètres de la maison le sol est à 3, je crois que c'est à 3 mètres, mm-hmm. toutes les petites branches. Je vis dans un village de 800 habitants. Et je peux t'assurer qu'il n'y a pas grand monde qui le fait.
Bah oui, non, mais c'est
ils
pour
le
ça.
Pas.
C'est une responsabilité collective aussi. Hein.
Et individuelle.
Individuel.
C'est une généralité, c'est que personne ne prend conscience.
Exactement.
Quoi. Personne ne prend conscience.
Chacun doit entretenir son
jardin.
C'est toujours le voisin, le responsable.
Merci à Laurent du côté de la Gironde, Saint-Vivien, de Médoc. Il dit, bon, il ne faut quand même pas s'affoler. Ouais, salut Laurent, ce n'est pas l'apocalypse. Alors, ces tempêtes en répétition, on va simplement regarder votre sentiment. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez une petite crainte? Non. À 63%, enfin, on a quand même 37% de oui dans cette histoire. Dans un instant, Marine Le Pen, elle saura le 7 juillet si elle peut se présenter en 2026. Est-ce que la justice est trop lente dans cette affaire? 32-16 pour venir en discuter avec les Grandes Gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Venez discuter avec les GG, avec les Grandes Gueules, comme tous les jours en direct sur RMC. RMC, s'il vous plaît, madame la professeure.
Ah ouais, c'est dissipé là-bas.
Madame la professeure, s'il vous plaît, on ne parle pas quand on
c'est
a
Monsieur
repris.
C'est Truchot qui me dérange.
Quand on a repris les cours, madame
c'est
Barbara Le
Pen.
Yves Candebord.
En plus, elle balance, hein.
Oui, c'est le proviseur adjoint qui me dérange.
Et Laura Varton-Martinez qui sont avec nous. On va regarder le calendrier judiciaire de Marine Le Pen. On va le regarder, bien sûr, avec vous au 32-16. Marine Le Pen a confié à quelques journalistes hier, plus la décision de justice était rendue tôt, mieux je me portais. Sauf que, c'est pas le cas. Ça sera début juillet.
Oui, le 7 juillet. On vit quand même une époque formidable où c'est la justice qui va donner le coup d'envoi de la campagne présidentielle. Puisque de quoi parle-t-on? on parle des favoris de cette présidentielle, si j'en crois les sondages. Soit Marine Le Pen, soit Jordan Bardella, les deux, s'ils se présentaient, enfin, si on votait la dimanche, seraient sûrs d'être qualifiés pour le deuxième tour. Donc là, on va attendre le 7 juillet pour savoir précisément qui sera le favori, Marine Le Pen ou Jordan Bardella. C'est assez curieux. La justice prend son temps, toujours. Alors, il faut rédiger le jugement. Il n'y a pas que Marine Le Pen, d'ailleurs, qui est poursuivie. Il y a d'autres prévenus. Néanmoins, on peut s'interroger sur ce calendrier très tardif. Que va-t-il se passer d'ici le 7 juillet? Ben, du côté du Rassemblement National, on va être en stand-by, en quelque sorte. En revanche, les autres candidats, les adversaires du RN vont pouvoir se mettre en branle. Vous allez voir, il y aura plein de déclarations de candidature. Déjà, ça a commencé, on a quasiment une par semaine. On parle de primaire, etc. Donc, est-ce que c'est quand même pas un peu gênant que ce calendrier présidentiel soit fixé par la justice?
Justice trop lente et politique, 32-16 pour le dire au Gégé, Barbara.
Ouais, déjà, je m'inquiète pas trop pour la campagne du Rassemblement National, parce que déjà, hélas, l'actualité fait campagne aussi parfois pour eux. Et par ailleurs, on a bien compris que l'électeur du Rassemblement National, que tu lui mettes Marine Le Pen, Jordan Bardella, Sébastien Chenu ou Jean-Philippe Tanguy, je crois qu'il serait prêt à voter pour n'importe lequel. Puisque de toute façon, ils votent pour les idées du Rassemblement National. Donc c'est pas tellement ça. Moi, ce qui interroge, oui, en effet, c'est la question de la lenteur de la justice. Parce que je crois que pour l'appel du MoDem, là, elle prend son temps. Pas trop pressée. Dans la même affaire. Je crois que la LFI est toujours en instruction. Alors là, on se dépêche pas non plus pour même la première instance. Donc oui, en effet, de la même façon qu'on s'est dépêché pour intervenir dans l'élection présidentielle en 2017
pour Monsieur Fillon,
pour Madame le travail dissimulé bien sûr de Madame Pénélope Fillon qui méritait d'être sanctionnée bien sûr. Et puis les chaussettes et les costumes grassement payés par Monsieur Bourgi qui s'est empressé de venir raconter tout ça sur les plateaux télé. Alors là, la justice est allée très vite parce que c'était très très grave pour les costumes. Et ben pour Madame Le Pen, c'est pareil. Donc oui, ce qui est embêtant, c'est le deux poids deux mesures. Que la justice fasse son travail, c'est tout à fait normal, mais qu'elle fasse deux poids deux mesures en ne se dépêchant pas beaucoup pour le MoDem et la LFI, mais qu'elle accable le Rassemblement National, disons que c'est un petit peu douteux, mais moi je pense qu'au contraire, ça ne va avoir qu'un seul effet, qui n'est peut-être pas d'ailleurs celui souhaité par les partis civils et le Parlement européen, ça ne va faire que renforcer le Rassemblement National. Donc en plus, niveau stratégique politique, c'est complètement nul.
Yves ?
Oui, moi je ne suis pas tellement étonné, on sait très bien qu'il y a une justice... je dirais qu'elle est pratiquement à la tête du client en permanence et systématiquement, et c'est pitoyable, mais malheureusement c'est la justice et on peut pas y toucher parce que c'est le bon Dieu, quoi. C'est le bon Dieu,
ça. Ah oui, c'est intouchable.
Bah, ils sont intouchables, quoi. On le voit bien, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent et quand ils veulent. Et mais malheureusement, c'est comme ça.
Laura.
Oui, moi je suis assez d'accord avec Barbara. Là, ils sont en train de positionner Marine Le Pen en martyr politique. Donc, ils sont en train presque de glorifier, d'en faire un symbole. Mais malheureusement, ce qui est la chose la plus déplorable dans cette histoire, c'est la temporalité à géométrie variable de la justice. C'est vraiment que si la justice était lente pour tout le monde, on se dirait, bon, on sait, il y a un problème de magistrats dans notre pays, on n'a pas assez de greffiers, on n'a pas assez d'avocats, etc. Et ce serait OK. Malheureusement, on voit que quand ça les arrange, ça peut aller très, très vite.
Mais là, il faut savoir, parce que Marine Le Pen, c'est une vieille histoire quand même, donc ça a été assez lent. Et puis ça s'est accéléré.
Tu vas pas me dire que
le timing est bien accéléré.
Oui, mais ça a accéléré, mais même le Rassemblement National était plutôt pour l'accélération, pour que les choses soient soldées avant la présidentielle. Donc il faut savoir ce qu'on veut.
C'est puisqu'ils pensaient être dans leur bon droit par rapport au statut même de l'assistant parlementaire, qui, on le rappellera, n'est pas un fonctionnaire européen.
D'accord, mais ils voulaient l'appel quand même assez rapidement.
Le timing, il est douteux. Et par contre, moi, je pense que définitivement, Marine Le Pen ne sera pas candidate à l'élection présidentielle, qu'elle soit condamnée ou pas. Parce que le problème, c'est que, selon moi, si elle est candidate, les partis adverses ne vont faire que l'attaquer. Et encore une fois, les Français seront privés d'un réel débat.
Elle avait dit qu'elle irait en casse ou pas en casse.
Le 7 juillet, elle statuera. Enfin, bon, c'est la justice qui va statuer parce que si la justice lui interdit de se présenter, mais si elle peut obtenir quand même une peine plus restreinte, pouvoir y aller, mais avec un bracelet électronique.
Je fais pas campagne.
Et là,
avec un bracelet.
Elle-même a dit que ça serait quand même difficile de faire campagne avec un bracelet électronique, puisque le bracelet électronique t'impose de rentrer le soir chez toi, etc. Enfin bon, bref. Ah, mais... Donc pas de déplacement, pas de meeting. On peut faire des meetings à 14
heures. Mais même au-delà de ça.
Et puis.
Je pense que ça c'est une erreur.
Et puis donc.
De pas
donc
faire campagne.
Bien sûr.
Et donc le pouvoir en cassation, à mon avis, il est abandonné. Alors, il n'y aura pas de pouvoir en cassation.
Non, mais elle fera un pourvoi en cassation, même si elle se décide.
Elle sera pas candidate.
Voilà, elle sera pas candidate, mais son pourvoi en cassation, bien sûr qu'elle le fera. Elle est avocate, c'est son droit. Et je suis désolée, votre droit en justice est d'aller jusqu'au bout des toutes les voies de recours. Moi, j'irai jusqu'en cassation, j'irai même jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est d'ailleurs ce que fait Nicolas Sarkozy. Voilà. Par contre, je pense que si elle est condamnée à moins de 2 ans d'inéligibilité et que donc il y a une partie qu'elle devra purger avec un bracelet électronique pour les quelques mois de reliquat qui lui restent, je pense que ce serait une erreur. Au contraire, je crois que symboliquement ce serait très fort d'avoir une candidate qui est avec un parce que elle continuerait
ça
à montrer si elle veut. Non, mais
ça
moi je dis pas qu'elle aurait raison de le faire, mais je dis que le symbole, il serait fort justement pour dire ce côté anti-système. Vous avez au sein du Rassemblement national comme au sein de la LFI des gens qui en ont ras-le-bol de ce système
aussi. Oui,
d'accord,
mais quand tu
aspires... leur envoyer des messages, je veux bien en ce moment, j'entends que le RN se bouche le nez sur Milei et Trump en permanence. Oh, non, c'est pas nous. Nous, on est impeccable, machin. Oui, ben, je crois qu'il se gourde.
Non, oui, d'accord, mais quand tu aspires à la fonction suprême, rentrer à l'Élysée avec un bracelet électronique.
Mais si t'as été victime d'une injustice, excuse-moi.
Ah, bah, toi, tu peux être victime d'une injustice, la justice est passée. Donc tu rentres avec un bracelet électronique à l'Élysée. Moi, j'y crois pas une seconde.
Non, mais écoute, il y a bien des gens qui travaillent avec un bracelet électronique.
On va aller à Clermont-Ferrand. C'est pas la même chose que.
Ah, non, moi, je vois pas pourquoi.
On va aller à Clermont Ferrand, retrouver Paul qui est avec nous, qui est boulanger. Bonjour Paul.
Bonjour Paul.
Bonjour les GG.
Paul, bonjour. Paul Boulanger. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la justice prend délibérément son temps? Est-ce qu'elle est trop lente? Dites-nous.
Ah ben, pour moi, oui, carrément. Et là, c'est vraiment. Ils veulent essayer de faire en sorte qu'elle ne puisse pas se présenter. Parce que moi, je ressens la chose qu'ils ont tellement peur qu'elle arrive au pouvoir qu'ils font tout pour pas qu'elle se présente. Ils sont en train de faire un peu comme ils ont fait il y a quelques années avec Dominique Strauss-Kahn. Bizarrement, il était bien parti et il lui arrivait une couille.
Enfin, c'est peut-être aussi de leur responsabilité. Oui, alors, il y a une couille. Peut-être que l'expression est.
C'est une expression qui est.
Elle est bien utilisée. Par contre, on va peut-être mettre Marine Le Pen sur la même échelle que Strauss-Kahn.
Ne soyons pas dans le grand complot permanent de Miss Strauss-Kahn. Il s'est lui-même mis dans la nasse, si j'ose dire.
Oui, mais bizarrement, c'est.
Personne n'y a
pas avant les élections.
C'est-à-dire, vous voulez dire, tiens, 2012, Strauss-Kahn, bim. 2017, Fillon, tiens, bim. Une affaire, Marine Le Pen favorite, tiens, bim. Encore une affaire, une condamnation, c'est ce que vous voulez dire, Paul?
Ben, un peu, puisqu'il y a d'autres partis qui sont accusés des mêmes choses, mais eux, bizarrement, il n'y a rien du tout qui se passe. Donc,
c'est pas tout à fait les mêmes dossiers.
Excuse-moi, Modem, mais c'est pas une question d'ampleur, c'est une question de principe. Non. Une question d'ampleur, c'est une question de principe.
C'est proportionné.
Je suis désolée, c'est exactement le même procédé qui est reproché au Modem et à LFI et au RN.
Non, parce que la justice. La justice dit que c'est un système qui a été mis en place de détournement d'argent européen.
Non, ça c'est ce que dit les avocats du Parlement européen, c'est leur argument ils ont le droit de l'avoir. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, je suis désolée.
C'est ce que disent les procureurs et c'est ce qu'ont dit les juges en première instance.
Simplement, on n'est pas sur le même schéma, parce qu'en plus, la personne qui était au moment du Modem, entre guillemets, la cheville ouvrière du système...
C'est Marielle
de Sarnez. Elle est décédée. Donc,
Monsieur Bayrou.
Il y a quand même d'autres casseroles. Il y a payé de la drogue avec son enveloppe parlementaire.
Alors qu'on sait très bien que Marielle de Sarnez ne prenait pas une décision sans en parler avec François Bayrou. Oui, c'était bonnet blanc et blanc bonnet. Donc, arrêtez de nous prendre pour des perdants de l'année aussi.
Oui, sauf que François Bayrou, à l'époque, n'était pas député européen.
Donc, pour vous, Paul, ils ne veulent pas que vous. La justice ne veut pas qu'elle se présente, tout simplement, quoi.
Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est clairement ça. Ils veulent l'empêcher de se présenter et d'accéder à la présidence.
Merci Paul d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Mais est-ce que Marine Le Pen n'a pas finalement pavé d'ores et déjà la voie à Jordan Bardella sans attendre précisément ce qui devait se passer? Parce que, tu sais, elle a dit elle-même, il peut très bien gagner à ma place. C'est comme si elle avait abandonné le combat aussi déjà.
C'est pas abandonner le combat. Je suis pas d'accord.
C'est
habile, Olivia a raison. Et puis, peut-être que c'est l'une des rares, alors il y en a à gauche hein, aussi, mais peut-être que c'est l'une des rares qui fait passer le bien-être de la nation avant. Moi, je suis désolée. J'ai très peur que si Madame Le Pen se présente à l'élection présidentielle, on est comme on a eu en 2017, c'est-à-dire un procès de Madame Le Pen à chaque fois qu'il y avait un débat politique, qu'on ne se battait jamais sur les idées de fond, on ne se battait jamais sur les programmes, on ne se battait jamais sur les problématiques. Là où moi, j'aurais aimé justement de voir une extrême gauche, enfin, c'est une extrême droite qui peuvent avoir un réel débat constructif. Bon, on avait, t'as fait ça mal. On avait un ping-pong des erreurs de chacun au lieu d'avoir un ping-pong sur les solutions proposées.
Et Barbara, tu dis, elle ferait campagne avec son bracelet électronique, mais t'imagines, ça focaliserait totalement l'attention, ça empêcherait le débat d'idées. Parce que tout le monde dirait à ce moment-là, nous avons face à nous, dans le débat, dans la discussion, une
dépend.
Candidate qui a un bracelet électronique.
Et tout dépend et de la campagne que tu veux faire. C'est mon point de vue. Tout dépend de la campagne que tu veux faire. Si tu veux faire une campagne toute lisse, où vraiment tu te ranges dans les bons cadres qui vont plaire à la classe politico-médiatique. Ok, par contre, si tu veux faire une campagne à la Milei, à la tronçonneuse, ben je trouve que c'est un argument parmi d'autres. Maintenant, je pense effectivement, compte tenu de tout ce que j'entends en ce moment avec le Rassemblement National, que ce soit Monsieur Bardella et d'autres, c'est plus on va lisser le truc, mieux on se porte. Trump, on se bouche le nez, Milei, on se bouche le nez, tout, on se bouche le nez, etc. On en est à idolâtrer la souveraineté européenne. Donc effectivement, je pense qu'ils veulent faire une campagne toute propre sur elle, mais je crois qu'ils ont toujours pas compris qui ils ont en face et que le système va bien leur faire comprendre qu'ils restent pour toujours des fascistes.
Voilà. Merci Paul d'avoir été avec nous. Dans les GG, le procès de Marine Le Pen, on aura le jugement le 7 juillet. Est-ce que c'est trop tard selon vous? Oui, à plus de 86%. Dans un instant, le on s'en fout, on s'en fout pas. Et ensuite, le 32-16 de nouveau à votre disposition à partir de 10h pour revenir sur les suites du scandale Epstein avec ce diplomate français qui est cité. Est-ce qu'on a cherché à étouffer l'affaire au Quai d'Orsay? C'est au 32-16 que donc vous viendrez en discuter. Mais d'abord, le on s'en fout, on s'en fout pas avec un homme qui va être papa pour la 7e fois. Il a 91 ans. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Toutes ces dégueux, dit Laurent.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les 10h moins le quart. Vous êtes avec Barbara Lefebvre, Laura Varton-Martinez et Yves Candebordes. Et on accueille Anaïs Inès Sainz pour l'On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout, on s'en fout pas.
Mais avant de donner la parole à Anaïs Inès Sainz, on ne s'en fout pas de gagner jusqu'à 30 000 euros demain, les amis. Attention, vous pouvez encore vous inscrire. Là, vous avez 10 minutes pour envoyer 13. Pourquoi 13? Parce que demain, c'est vendredi 13. Ça peut être votre jour de chance. Donc, vous envoyez 13 par SMS au 732-16. On fera tourner une roue sur toutes les encoches de la roue. Il y a de l'argent à gagner. 2 000 euros, 5 000 euros, 3 000 euros, 10 000 euros et jusqu'à 30 000. Vous envoyez 13 par SMS en chiffres ou en lettres au 732-16. Vous êtes tiré au sort. Demain, vous gagnez du pognon. C'est du pognon exonéré d'impôts puisque c'est du gain de jeu. Ma chère Anaïs, à vous.
Les GG Carnet Rose, d'abord, et cet homme de 91 ans qui devient papa pour la 7e fois dans les Pyrénées-Orientales. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
Non, on s'en fout pas.
Laura?
Moi, je m'en fous.
Yves?
On s'en fout pas.
On peut dire que cet ancien agriculteur déjoue à lui tout seul toutes les statistiques sur la dénatalité. Pierre Sablé, c'est son nom, explique être en pleine forme. Un adepte du jardinage et de marathon, la petite Louisa Maria, la dernière de la fratrie donc, aura une grande sœur de 60 ans. Quant à la maman, elle est âgée de 39 ans, elle se dit très heureuse.
Je ferai un test ADN à sa place.
Moi je trouve ça drôle. En plus j'ai entendu ce monsieur, il est très sportif, il estime que un des secrets de sa longévité, de sa forme, c'est de ne pas boire d'alcool, d'avoir une vie saine, il court, je crois qu'apparemment à 91 ans il court encore 8 km, quelque chose comme ça, donc bon.
Il était marathonien à 80 ans.
Ouais. Bah oui, moi je trouve que c'est drôle.
C'est pas un peu égoïste d'avoir un enfant si tard, c'est-à-dire non, que l'enfant, plus, il va pas le voir grandir.
Je sais pas si c'était une blague ou quoi, mais je crois qu'il a dit que c'était 7 femmes différentes en plus, 7 enfants de 7 femmes différentes. Donc écoutez, moi je trouve que c'est
de la ressource.
Bah oui, moi je trouve que c'est drôle, c'est sympathique, je vois vraiment pas où est le problème. Bah oui. Ouais.
Et tu vois faire un enfant avec un homme
non,
de 80 ans.
Non, pas vraiment,
ans.
Non si tu veux, mais déjà ah. Non.
Moi pareil, moi je trouve ça merveilleux, il donne naissance, il donne la vie. vie. Quoi. Il donne la vie.
Oui, mais c'est il verra pas grandir son môme.
Alors, il y a une forme d'égoïsme. Ça, je peux entendre. Il y a une forme d'égoïsme. Mais le temps qu'il va vivre avec ben, je pense qu'il
oui, met de l'intensité. Toi, t'es un jeune papa, Yves.
Oui, ça veut dire quoi ça?
Il n'a pas 91 ans.
Je sais bien. Mais bon, il ressent un petit quelque chose vis-à-vis du monsieur.
Oui, non, mais c'est surtout ces deux adultes consentants.
Exactement.
S'il peut encore faire des enfants. Écoutez, il faut le laisser, c'est la liberté.
On envoie des jeunes, on se demande s'ils devraient en faire.
Laura, elle a le droit. Non, attends, elle se foutait du sujet, mais elle ne se fout pas de ce que disent les deux autres sujets.
Elle est offusquée par vos réactions.
Non, mais l'offusquée, parce que.
Attends, laissez-la parler.
C'est pas la vérité.
Oui, je trouve ça. Alors, perso, je trouve ça dégueu, une femme de 30 ans avec un mec de 91 ans.
C'est là que. C'est l'acte sexuel qui te dérange.
Alors, déjà, mais alors ça, pour le coup, c'est personnel et j'ai pas de jugement de valeur ou j'ai pas de jugement à donner à ce monsieur ni à cette dame. Qu'ils font bien ce qu'ils veulent, c'est pas aussi. La seule chose, c'est que, pardon, mais en tant que thérapeute, je vois l'importance qu'a un papa dans la vie de ses enfants, une maman dans la vie de ses enfants, et bien que les mamans peuvent tout à fait pallier à ce genre de choses. J'estime que quand tu as le choix d'être un papa, eh ben, tu dois prendre à bras le corps toute la vie de ton enfant. Et pardon, un papa, ça peut avoir une grande importance.
On a tous dans nos familles, pour moi, mon grand-père, il a été orphelin quand il avait 4 ans. Ma grand-mère, elle a été orpheline.
Oui,
elle avait
des enfants. Ça n'a pas créé des traumatismes.
D'accord.
Ça n'a pas créé des défaillances
émotionnelles. Oui, mais là, ils
n'ont pas choisi. Attention, pas en même temps. Là, il n'y a pas de choix. Tu ne choisis pas d'être orphelin. Lui, il choisit de laisser son fils à l'enfant qui ne verra pas grandir.
Cet homme-là, il investit sa paternité de la façon qui lui plaît. Il a l'air d'avoir une famille équilibrée. Il est heureux. Le peu qu'il transmet à son enfant.
Cette mère différente,
je vais te dire, quand tu transmets, même s'il est, il vit jusqu'à une centaine d'années, par exemple, il va voir son enfant grandir.
Il va faire quoi? Il va offrir à
vous m'agresser comme si j'étais responsable. Je sais pas, on a bien le droit d'avoir un avis. On n'a pas besoin de se faire agresser. Bah, voilà. Deuxièmement, moi, je préfère que ce monsieur ait un enfant dans un cadre familial et de couple d'amour plutôt que de permettre à Nordal Lelandais d'avoir un gosse. Voilà.
C'est quoi le rapport?
Ah bah si, il y a un rapport.
Non, il n'y a pas le
rapport. C'est tout. On permet à Nordal Lelandais d'avoir un gosse. Mais ce monsieur, on le juge en disant que c'est pas normal de faire un gosse. Excusez-moi.
Je ne juge pas, je donne mon avis. Là aussi, tu m'agresses.
Non, mais attends, Barbara, on a le droit de ne pas avoir le même avis que toi aussi.
Bah oui, mais justement, c'est parce que vous m'avez. Moi, j'ai parlé calmement.
Je pense que Barbara, elle a raison. On parle du monsieur 91 ans. Il y a une dame, il y a une maman à 39 ans qui l'a accepté.
Mais c'est pas ce que je dis.
Mais en fait, vous déformez
mes propos. C'est absolument pas ce que je dis. Je dis juste que ce monsieur prend la décision de créer un enfant orphelin de père très tôt. C'est tout.
On enchaîne.
Les GG. Vous vous rappelez de cette affaire du faux Brad Pitt? La fameuse Anne escroquée à hauteur de 800 000 euros en pensant vivre une romance avec l'acteur. Oui. Et bien aujourd'hui, elle veut que ses banques la remboursent.
Elle se démerde.
Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
Non, on s'en fout pas. Non.
Laura?
Oh bah non.
Yves?
Moi, je sais pas, ça me fait rire. Je sais pas si je m'en fous ou pas. Anne, ça me fait énormément rire.
Anne a donc porté plainte contre ses établissements bancaires pour manquement à leur obligation de vigilance. On suivra ce dossier palpitant, évidemment. Laura, pourquoi tu t'en fous pas?
Mais elle se démerde.
Quoi?
Enfin, on va pas commencer à rembourser la bêtise, maintenant.
Mais les escroqueries, normalement, les banques sont très vigilantes et peuvent rembourser parfois.
Pardon, elle a pas été escroquée. Elle a cru à un boulet. Pardon, on parle pas d'une femme âgée qui s'est fait manipuler. La dame, excusez-moi du peu, elle avait quand même une très bonne situation, si je me souviens bien. Elle avait l'air parfaitement équilibrée. C'est pas parce que t'es dépressée. Enfin, pardon, je suis désolée.
Elle y a cru.
Moi, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression. Je suis encore sous antidépresseur. Demain, sur les réseaux, t'as Brad Pitt qui vient me dire qu'est-ce que t'es belle. Je lui dis, bah, dégage. Bah pardon, mais à un moment donné, je vais pas rembourser la connerie des gens.
Elle lui dit quand même, dégage, Brad.
Sorry, Brad, I'm so married.
Barbara.
Moi, je suis embêtée parce que je discute depuis plus d'un an avec Prince. Et parce que moi, je pense qu'il est pas mort et qu'il me parle d'outre-tombe. Et donc, régulièrement, tous les mois, je lui envoie 500 balles parce qu'il me dit, s'il te plaît, tu peux faire quelque chose pour que je puisse revenir dans ma carrière. Et alors là, vous m'éclairez, je vais peut-être demander à la banque de me rembourser. Voilà. Non, mais franchement,
Yves,
un peu de compassion, les amis, non?
Moi, je trouve ça énorme.
Même pas.
Je trouve ça énorme. Déjà d'être ridicule, d'avoir été ridicule, d'avoir cru à son idylle avec Brad Pitt, de se permettre d'aller demander à la banque de le rembourser. Je vois pas comment une banque peut le rembourser. Moi, je vais demander à la banque de me rembourser de toutes les bêtises que j'ai achetées.
Dans ces cas-là, mes crises de shopping.
J'ai dû me dire de pas les acheter. On marche sur la tête.
Elle tente ça, on marche sur la tête. Les GG, la 34e cérémonie des prix du trombinoscope. La soirée avait lieu hier à Paris, une sorte de baromètre annuel du pouvoir politique français. Et ce qui fait un petit peu polémique là sur les réseaux sociaux, c'est le prix remis à Sarah Knafo, la révélation politique de l'année. On s'en fout ou pas, Barbara?
Non, on s'en fout pas.
Yves?
On s'en fout pas.
Laura?
On s'en fout pas.
Les lauréats donc sont désignés par un jury de journalistes politiques de tous bords. Parmi les autres distinctions, Sébastien Lecornu a reçu le prix de la personnalité politique de l'année.
Alors ça, on s'en fout pas du tout.
Attendez, je vous fais le petit topo. Amélie de Montchalin, oui. Ministre de l'année.
Ah ben, allons-y.
Le député de l'année, à votre avis, les GG?
Oui, Olivier Faure, c'est pour ça que je te dis qu'il y a un problème.
Olivier Faure qui bénéficie d'une petite hype sur les réseaux en ce moment avec sa vidéo détournée du fort chour de Macron. Faure, F-A-U-R-E, bien sûr. Et puis, qui est l'Européen de l'année, à votre avis, les GG?
Marine Le Pen?
Non.
L'Européen de l'année?
Thierry Breton. Ben oui, l'a vu partout. Eh oui. Bon, Sarah Knafo, révélation politique de l'année, quoi. Yves.
Non, mais moi je suis scandalisé. C'est pas une fois de plus ce classement, mais c'est qu'aujourd'hui, on est les champions du classement. Moi, je vois dans mon métier la restauration, il y a 25 listes, 25 classements pour dire le meilleur restaurant, le meilleur chef. On est dans le ridicule, on a l'impression que c'est fait simplement pour faire du papier, pour faire du marketing. Il faut qu'on arrête avec ces classements. Ça n'a ni queue ni tête. Voilà. Les classements en général.
C'est pas un classement, c'est une remise de prix.
Une remise de prix, mais on n'arrête pas de se remettre des prix.
On
se fait plaisir, on se congratule, on s'aime bien, on s'embrasse. Moi, je trouve qu'on est dans le...
Est-ce que Sarah Knafo, Laura, c'est un scandale de lui décerner ce prix de révélation de l'année?
Alors, moi, je trouve pas... Alors, au-delà, si on doit juste parler de Sarah Knafo, je ne trouve pas... On peut partager...
Marine Tondelier, par exemple, est heurtée, outrée, parce qu'elle avait eu ce prix l'année dernière. Elle ne comprend pas que ce même prix...
Mais parce que on ne juge pas, selon moi, et c'est ce que j'espère, on ne juge pas le fond, on ne juge pas les idées, on ne juge pas les valeurs de la personne. Pardonnez-moi, mais Sarah Knafo a quand même explosé sur le plan médiatico-politique cette année. Moi, je salue chez cette dame, bien qu'il y ait plein de choses que je ne partage pas et qui sont quand même très compliquées à gérer, et donc je suis obligée de garder ma réserve. Mais c'est une personne qui attaque rarement en frontal pour se défendre ou pour appuyer ses arguments. Elle s'appuie sur des chiffres. Elle a une connaissance qui est extraordinaire, une culture politique française et internationale que je salue.
Pas sur le Pass Navigo, hein.
Non, pas sur le Pass Navigo. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit notre arc de députés, ça vole pas haut. Il y a quand même une bêtise qui règne au sein de notre gouvernement et de notre Assemblée nationale, qu'on peut peut-être saluer une personne qui sort un chouïa du lot.
Barbara?
Vu le palmarès, je comprends pas que Delogu n'ait pas eu de prix.
Ah.
Bah oui. Parce que excuse-moi, entre Lecornu, Montchalin, Faure. Non mais excuse-moi, franchement,
Faure,
c'est
permis,
pas très équilibré. Delogu a été brillant.
D'avoir un budget.
La stabilité, oui, voilà. Merci.
Non mais il au moins Delogu, il a mis de l'animation, tu vois, c'est drôle. On l'écoute, parfois on a envie de rire. Donc au moins, s'il y a bien un qui est comique, c'est lui. Alors souvent à son détriment, hein, mais je suis effarée de ce genre d'entre-soi.
Il y a les prix de l'humour en politique, mais c'est
ça n'a rien à voir. On l'a moins entendu, Delogu, ces derniers temps.
Tu m'étonnes, c'est une connerie.
Allez, suite des GG dans un instant, mais avant de vous donner le programme de la deuxième heure, je voulais vous rappeler que puisque nous sommes à un mois des élections municipales, les GG vont sortir. Et les prochaines sorties, ça commence dès jeudi prochain. Dans une semaine pile, les GG seront à Marseille, au Palais de la Bourse, 9 rue
avec
de la Canebière.
Ouais.
Et ensuite, la semaine suivante, le 24 février, on sera à Lyon. Et si vous voulez assister à l'émission, si vous voulez être avec les grandes gueules, vous envoyez un petit mail à public@rmc.fr, public@rmc.fr, puisqu'on a un nombre de places limitées. C'est simplement pour être sûr que vous puissiez être des nôtres et vous asseoir.
Un joyeux anniversaire à Didier Giraud. Avec un peu de retard, c'était hier. On lui a fait un gros bisou,
on l'embrasse.
Mon Didier.
C'est pas eu lundi, mon petit anniversaire. Hein.
Lundi, c'était anniversaire.
Bon anniversaire. De toute façon, on fait tous les anniversaires en retard.
Non, c'est passé. C'est passé.
Bon anniversaire quand même.
Merci.
Et Barbara, c'est bientôt.
16 décembre, c'est loin.
Ah, mais bon anniversaire pour l'année prochaine.
Voilà, vous êtes gentil.
Allez, dans un instant, Jeffrey Epstein, avec un diplomate qui est cité, touché. Est-ce que le Quai d'Orsay a cherché à étouffer l'affaire? Vous venez en discuter avec nous au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.